carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard-Flavigny.
Paul Delaroche et Lady Jane Grey. Si d'ordinaire vous visitez la Tour de Londres, vous aurez peut-être l'occasion de la parcourir en compagnie de l'un de ces yeoman, Warders, d'origine écossaise, dont le talent de narrateur est doublé d'un humour très britannique. Dans son costume Tudor bleu foncé à galons et parements rouges, cet ancien sous-officier, qui a obtenu la médaille du mérite, nous a menés dans la tour Beauchamp, ou Beauchamp comme on prononce là-bas, du nom du premier prisonnier qui fut enfermé, ceci à la fin du XIVe siècle. À l'étage, dans la salle circulaire qui ne ressemble rien à une cellule, les coins des murs où la pierre est plus tendre, apparaissent des graffitis et notre Beefeaters, surnom donné au yeomen, en référence à la portion quotidienne de bœuf qui leur était donnée, nous désigne celui gravé par Lady Jane Grey. Jane Grey fut la reine d'Angleterre qui régna le moins longtemps, 9 jours en tout, avant d'être exécutée dans la cour en bas de la tour Beauchamp et face à la chapelle Saint-Pierre, où elle fut ensuite inhumée. Elle était la fille de Mary, la jeune sœur d'Henri VIII, et très proche de son cousin Édouard VI, le fils de Jane Seymour, qui succéda à son père en 1547 à l'âge de 10 ans. Farouchement protestant, il ne souhaitait pas, dans le cas où il mourrait sans descendance, que ce fût sa demi-sœur Marie, la fille de Catherine d'Aragon, première femme d'Henri VIII, et souhaita que Jane, elle-même protestante, lui succéda. Nous savons qu'en réalité, ce souhait était le résultat d'intrigues formulées par John Dudley, qui, voyant que le jeune roi s'affaiblissait de plus en plus, maria précipitamment son fils, Guilford Dudley, à Lady Jane. Cette dernière, quoique hostile à ce mariage, se laissa faire, ignorant les plans de son beau-père. Un mois plus tard, le 10 juillet 1553, Édouard VI rendait l'âme, et l'on rapporte qu'apprenant qu'elle devenait reine, Lady Jane s'évanouit. Pendant ce temps, Marie Tudor parvenait à soulever de nombreux partisans en sa faveur. John Dudley dut s'incliner, d'autant plus que Jane refusait d'exercer le pouvoir, ce qui lui coûta la vie. Le 20 juillet, Jane était détrônée et enfermée dans la tour de Londres, avant d'être exécutée avec son mari quelques mois plus tard sur les ordres de Marie Tudor, bientôt surnommée Bloody Mary. La National Gallery propose une exposition autour de l'exécution de Lady Jane Grey par Paul Delaroche, 1797-1856. Cette très grande toile, 2,50 m par 3 m, avait été présentée à Paris au Salon de 1834 et avait fait littéralement sensation. Avec un réalisme saisissant, l'artiste donnait à la peinture historique toute sa force, doublée d'une émotion quasi palpable. Tandis que les suivantes éplorées se lamentent et que le bureau s'appuie sur le manche de sa hache, la suppliciée vêtue d'une robe blanche immaculée, les yeux bandés, s'agenouille à tâtons devant le billot, guidé par Sir John Brydges, lieutenant de la tour. Face à cette scène, les visiteurs s'évanouissaient en vivant presque par procuration les derniers instants de cette jeune femme, âgée seulement de 17 ans, et qui avait dit avant de mourir le 12 février 1554, « J'ai la certitude qu'en perdant une vie mortelle, je gagnerai une vie immortelle. » La présentation de ce tableau entouré des grandes peintures historiques de Delaroche et de leurs dessins préparatoires lui donne tout son sens allégorique. Mais pourquoi un artiste français s'est-il autant penché sur l'histoire de l'Angleterre? Elle lui a permis d'aborder indirectement l'histoire de France, explique Anne Robbins, conservateur à la National Gallery et l'un des commissaires d'exposition. Lorsqu'on a saisi cette comparaison, l'interprétation que l'on fait de ces tableaux devient plus claire. Les enfants d'Édouard font songer à Louis XVII enfermé au Temple. Charles Ier insulté par les soldats de Cromwell, à Louis XVI aux Tuileries, Lady Jane Grey à Marie-Antoinette conduite à l'échafaud. Cette transposition n'était pas un moyen de masquer les événements dramatiques de l'histoire de France, mais celui de marquer plus encore l'émotion qu'ils ont engendrée. Marie-Antoinette devant le tribunal, qui appartient à la collection Forbes, peint en 1851 par Delaroche, découvre pourtant presque en direct le drame vécu par la reine de France. Si l'on examine les compositions historiques de Delaroche, nous ne pouvons nous empêcher de songer à des mises en scène de théâtre. On ne mesure pas assez les réactions à cette peinture d'histoire qui surgit, notamment sous l'influence de David, pour s'épanouir justement dans les années 1820-1830. Cela même au moment où les pièces de théâtre n'étaient plus séquencées en actes mais en tableaux. Paul Delaroche, ami de Casimir de Lavigne, était proche des milieux de la scène et ses tableaux furent, de son vivant, présentés à plusieurs reprises sur les plateaux. Il avait une liaison avec une jeune comédienne appelée Mademoiselle Anaïs. Il s'en inspira pour donner ses traits à Lady Jane dans l'exécution de Lady Jane Grey. De Lavigne composa une pièce inspirée par l'histoire des enfants d'Édouard, un autre drame de l'histoire d'Angleterre. L'histoire de ces deux garçons serrés l'un contre l'autre nous est familière. Édouard IV, roi d'Angleterre, avait eu deux fils de son mariage avec Elizabeth Woodville. En 1483, l'aîné, âgé de 12 ans, fut proclamé roi sous le nom d'Édouard V. Mais leur oncle Richard, duc de Gloucester, assura que son frère était bigame et ce neveu illégitime. Édouard V et son puîné Richard, duc d'York, furent internés à la Tour de Londres, puis vraisemblablement empoisonnés. Toujours est-il qu'ils disparurent. Le trône était libre et Richard III put ainsi régner. Trois siècles et demi plus tard, Paul de la Roche s'inspira des écrits de Sir Thomas More sur ce drame repéré par Shakespeare pour composer ses Enfants d'Édouard, appartenant aujourd'hui au Louvre et présenté à la National Gallery. Lorsqu'il fut présenté au salon de 1830, les Enfants d'Édouard connurent aussi un grand retentissement. Ces enfants sont entrés peu à peu dans l'inconscient populaire français. Leur coupe de cheveux, avec une frange, est devenue non pas une mode, mais une expression. Voyons également Cromwell décrivant le cercueil de Charles Ier, peint en 1831, et aussi Lord Strafford allant au supplice, lui, en 1835. Nous pouvons leur opposer des scènes empruntées à notre propre histoire, comme le célèbre assassinat du duc de Guise, dont une aquarelle datée de 1832 a été sortie de la collection Wallace. Paul de la Roche se rendit plusieurs fois à Londres dès 1822. Nous en avons la preuve grâce au visitor book de l'armerie de Sir Murick, récemment découvert. On a souvent reproché à de la Roche de s'être inspiré assez peu librement des gravures anglaises anciennes afin de planter ses décors. Nous pourrions appeler cela des citations. Le sort de ces tableaux chargés d'émotions que l'on pourrait considérer comme être des miroirs de notre invention historique est tout aussi curieux. Charles Ier, insulté par les soldats de Cromwell, 1837, endommagé durant les bombardements de Londres en 1941, avait été laissé de côté jusqu'en 2009 et doit bénéficier d'une restauration. Quant à l'exécution de Lady Jane Grey, on l'avait cru disparu et même détruit à la suite des inondations de la Thames, la Thémise, en 1928. Or, en 1973, un étudiant cherchait une grande toile de John Martin, découvrit roulé à l'intérieur le Jane Grey, assez peu endommagé. Et ce tableau apparaît aujourd'hui dans tout son éclat, tant pictural qu'émotionnel.